BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club MediaRH.com, le rendez-vous hebdomadaire du recrutement, de l'emploi, du management, des ressources humaines d'une manière générale et de la découverte. Nous sommes ravis de passer ce début d'après-midi de ce samedi 9 février en votre compagnie. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi, une heure entière, au cours de laquelle vous allez à la fois découvrir des sujets qui vous intéressent, puisqu'on parle d'emploi, de recrutement, également de Génération Accenture. C'est une opération dont nous sommes partenaires qui nous permet d'aller découvrir des talents dans les grandes écoles et universités en France, bien sûr. Génération Accenture, ça va être dans quelques minutes. Je voudrais vous dire que pratiquement l'émission va être sous la houlette de la jeunesse, la nouvelle génération qui est encore à l'école, qui va arriver aux manettes dans les entreprises. C'est pratiquement, on ne l'a pas fait exprès, avec le témoignage en particulier de Sandrine Chicot, notre consoeur de 01net, pour sa rubrique Innovation RH. Elle parlera de l'accueil des nouveaux embauchés. Il s'agira également d'une autre partie des jeunes. Il s'agit des surdoués. Qui sont-ils? Comment s'intégrer dans une entreprise quand on est un surdoué? C'est le cas de certains d'entre nous dans le studio avec une psychologue et brillante psychanalyste, Monique de Kermadec, que nous sommes ravis d'accueillir pour son livre. On va en parler, bien sûr. Sans oublier, donc, également un invité témoin. Mais il fait partie de cette nouvelle génération. Il vient de prendre les manettes d'une grande et belle entreprise française. Ça se passe dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux. Si je vous dis Pauillac, Lynch, Bage, bien sûr que pour vous, auditeurs de BFM Business, ça dit certainement quelque chose. Je suis ravi d'avoir comme invité témoin Jean-Charles Caz. Bonjour Jean-Charles Caz.
Bonjour Alexandre.
Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance.
Merci, je suis très heureux d'être là.
Et je vous ai vu en photo, j'ai vu que pas mal d'articles sur vous. Il se trouve que quand je parle de nouvelle génération, je ne me trompe pas Jean-Charles.
Je peux peut-être encore en faire partie. Oui, je ne suis plus tout à fait aussi jeune que je l'étais il y a quelques années, mais j'ai pris la relève de mon père depuis 2006, effectivement, donc c'est assez récent.
Oui, de quelle relève parle-t-on, Jean-Charles?
Alors, en 2006, j'ai
pris... Votre père, c'est Jean-Michel Caz.
Mon père, c'est Jean-Michel Caz, effectivement. Et j'ai pris la suite à la direction des domaines de nos propriétés. Donc, le vaisseau amiral, c'est Château Lynch-Bage à Pauillac. Mmh. Nous avons d'autres propriétés. Ormes de Pèze à Saint-Estèphe, Villa Bel-Air dans les Graves.
Que des petits vins de village, quoi.
Exactement, des vins de terroir. Et oui. On s'est un peu étendu à Châteauneuf-du-Pape avec une propriété qui s'appelle Domaine des Sénéchaux et une propriété à la Livinière. Voilà.
C'est une belle aventure familiale.
C'est une aventure familiale, effectivement.
Mais pas que ça.
Je suis la quatrième génération, donc c'est effectivement une succession. Ouais. On est aussi très impliqué dans l'œnotourisme, ce qu'on appelle l'œnotourisme
à Bordeaux. On va en parler. Ouais.
Et depuis peu, donc, on a poussé un nouveau projet qui s'appelle Crushpad et qui permet à des particuliers de faire leur vin
sur mesure.
Sur mesure, exactement. Et c'est un peu le concept.
Crushpad, c'est avec votre ami Michael Brill, c'est bien ça?
Alors Michael Brill, c'est le fondateur de la maison mère qui est à Sonoma,
dans la Silicon Valley.
Il a commencé effectivement à San Francisco et nous avons repris cette activité-là. Nous l'avons développée à Bordeaux avec Steven Bolger, qui lui est un Franco-Américain qui a introduit le concept à Bordeaux et qui nous a permis de développer l'opération.
Alors c'est une innovation assez étonnante, je le dis au passage, donc avec un informaticien de la Silicon Valley, avec deux, trois autres personnalités, vous avez eu cette idée de proposer de faire son vin sur mesure. On peut même dessiner son étiquette et deux ans après, j'ai lu ça dans la presse,
oui,
on reçoit
fait,
300
oui.
bouteilles.
On reçoit parce que
l'équivalent de 300 bouteilles.
Notre unité de vinification, pour permettre aux particuliers d'avoir des choix techniques importants, c'est la barrique. Donc une barrique, ça représente 300 bouteilles. Et
c'est gentil de dire ça en me regardant.
C'est notre formule, voilà. Exactement. Et donc l'étiquette...
Le client recevra l'équivalent d'une barrique.
Il ne reçoit pas une barrique physiquement, mais il reçoit 300 bouteilles, donc l'équivalent d'une barrique, et l'étiquette est simplement l'aboutissement du processus, mais avant ça, il doit faire beaucoup de choix techniques, et
Il participe,
autant ou aussi peu qu'il le souhaite, hein, donc ça peut aller de faire la vendange jusqu'à accompagner ensuite les opérations dans le chai, mais ceux qui le souhaitent être un peu moins impliqués, on leur demande simplement d'être là au moment de l'assemblage, qui est le moment le plus important.
C'est votre idée, Jean-Charles Caz?
C'est mon idée, oui. On a eu l'opportunité. C'est une
innovation totale. Il y a que vous qui faites ça.
C'est un concept assez unique, bien sûr. Oui, on est les seuls à Bordeaux. C'est une idée au départ de américaine, hein, qui a été adaptée et importée par Stephen Bolger. Et j'ai trouvé que ça complétait tout à fait nos activités à Bordeaux, puisque c'est la clé de voûte entre la partie vignoble, production, et la partie œnotourisme. Et on est assez impliqué là-dedans, là aussi.
Alors, on ne va pas s'étendre trop sur cette partie-là, puisque je rappelle que sur BFM, on est bien lotis, avec Invino sur BFM, avec notre ami Alain Marty, et c'est tous les week-ends, me rappelle Fabien Leroubourg, notre réalisateur. On ne va pas aller entrer dans le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est votre parcours à vous. Je disais que j'ai vu beaucoup de presse. Vous êtes, dites-vous, à la quatrième génération. Je m'emmêle un peu les pinceaux, parce que vous ne le savez pas, Jean-Charles Caze, mais je connais trois générations.
Oh là.
Vous ne le savez pas ?
Non, je ne le sais pas, non.
J'ai rencontré votre grand-père.
Mon grand-père.
Qui était maire
de Pauillac.
Notaire.
Non, il n'était pas notaire, il était assureur.
Assureur, pardon.
Assureur.
Je me souviens très bien de lui. Et c'était il y a très longtemps.
Il était maire de Pauillac pendant 42 ans.
Pendant 42 ans. Ouais. Et je l'ai même interviewé il y a très longtemps. C'était au début de mon métier de journaliste. C'est pour ça que quand on démarre sa profession, on se souvient des premiers que l'on rencontre. C'est un monsieur charmant. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette région avec lui. Il m'a emmené dans sa deux chevaux ou sa voiture et il m'a fait visiter toute la région et je garde un très beau souvenir. Ensuite, j'ai connu Jean-Michel Caze, votre papa. Vous ne le savez peut-être pas.
Non.
Je le dis au passage, Jean-Michel Caze, c'est celui qui a développé la région viticole. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a fait visiter ce village qu'il a pratiquement lui-même, avec son argent, votre argent personnel, l'argent de la famille, reconstitué.
Tout à fait.
Voilà. Pour en faire un vrai village vivant dans cette région du Pauillac.
Tout à fait. Exactement.
C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, oui.
Et nouvelle innovation avec la quatrième génération, c'est vous. Je ne vous connaissais pas, je suis ravi de faire votre connaissance. Donc, sur cette idée innovante. Mais votre parcours, je l'ai vu. Mais, et on parle dans cette émission des jeunes dont vous faites partie. Vous avez quel âge, vous-même, Jean-Charles ?
38 ans.
38 ans. Oui. Bon, vous êtes jeune encore, ça va.
J'espère, bon, oui.
Oui, vous le faites en plus. Ça le fait. Et votre parcours est étonnant. Vous n'êtes pas, vous auriez pu traîner vos guettes tranquillement dans cette magnifique région du Pauillac, Lingebage, le château Orme de Pèze, c'est ça ?
Orme de Pèze, à Saint-Estève, oui.
À Saint-Estève, tous ceux qui nous écoutent et qui aiment ça connaissent par cœur et savent que ce sont parmi les plus grands vins du monde. Vous auriez pu tranquillement vous étendre dans les vignes. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti à la conquête du monde. Et ça, je pense que c'est une belle histoire.
Oui,
votre parcours professionnel.
Mon parcours professionnel, oui. Bon, j'ai eu quelques aventures. Enfin, je suis parti à l'étranger d'abord. J'ai eu l'opportunité de partir au Brésil pendant 2 ans. Ma mère est portugaise. J'ai la double nationalité. Je maîtrise assez bien la langue. Et donc, le Brésil a été un choix assez simple pour moi. Et j'ai travaillé dans une grande entreprise française, chez Valeo. J'ai fait du contrôle de gestion, comme ça a été ma première expérience.
Vous avez travaillé à la banque aussi, dans la finance ?
J'ai fait quelques... Ma formation est plutôt économie et finance, effectivement. Et mes premiers stages, pas parler de vrai réel job, mais j'ai fait des stages assez longs dans la finance et pour ensuite faire une première expérience la plus aboutie dans le contrôle de gestion chez Valeo début des années 2000 avant de revenir.
Et à quel moment, à quel moment s'est fait le basculement ? À quel moment vous avez dit je reviens à l'histoire familiale ?
Ça a été un choix difficile parce que j'étais très bien d'abord, j'étais très heureux au Brésil, c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup d'affection et j'ai passé parmi les plus belles années de ma vie là-bas, pour l'instant. Et encore jeune.
Ah, oui, les plus belles années, c'est celles qui arrivent.
J'en parle toujours avec beaucoup de nostalgie. Et puis,
avec une maman portugaise, effectivement, avec la langue, c'est plus facile.
J'y retourne assez régulièrement. Et donc, c'était un choix de cœur. Ensuite, je suis revenu parce que c'est à une époque nous développions nos affaires à Bordeaux et mon père qui ne m'avait jamais mis la pression jusqu'à ce jour-là m'a fait comprendre que je pouvais tout à fait continuer là où j'étais mais qu'un jour ou l'autre que le timing était favorable là. Voilà,
en ce moment dans la presse, tous les magazines de presse écrite, papier glacé ou pas, je le vois, on est dans cette période-là. Il suffit encore une fois de feuilleter les magazines la semaine dernière, le Figaro Magazine, Challenge et les autres, l'entreprise, ce n'est que ça. C'est la success story des fils d'eux, de ces jeunes, et pardon de le parler comme ça, c'est pas péjoratif dans ma bouche, qui ont, à un moment donné, pris les rênes. Ça va de, bien sûr, LVMH, sans oublier la famille PPR, sans oublier etc., etc. Et il y a en ce moment tout un renouveau dans le management de jeunes qui reviennent après des études, après des voyages un peu partout dans le monde, après s'être frotté au monde, qui reviennent vers le berceau familial. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon vous, en deux mots, la différence entre vous, le management d'une entreprise comme la vôtre, de vin du côté de Pauillac, celle de votre père? Mais d'abord, un mot sur ce que représente, non pas l'Empire, mais ce que représente l'entreprise, l'entreprise CAS.
L'entreprise,
est-ce que vous acceptez de nous donner des chiffres?
Je peux vous donner un chiffre. On est 200 collaborateurs, on est à peu près 120 sur la partie viticole, 80 sur la partie hôtellerie-restauration, puisqu'on on a un relais château à Pauillac et deux restaurants. Un chiffre d'affaires qui est confidentiel, je peux pas m'en ouvrir.
Bien sûr, oui. Qui n'est pas communiqué.
Qui n'est pas communiqué, qui est très variable, puisque notre activité est très cyclique. Le vin et notamment les grands crus à Bordeaux ont des variations de prix assez importantes.
Et des gens, et des hommes et des femmes que vous recrutez? Est-ce qu'on parle d'emploi dans cette émission?
Bien sûr.
Par exemple, qui recherchez-vous en ce moment?
En ce moment, à Pauillac, je recherche un commercial. C'est un poste qui vient de s'ouvrir, un commercial dans les vins et spiritueux.
Il doit être expérimenté?
On a besoin de quelqu'un qui ait au moins 3 ans d'expérience, donc qui ait une première expérience significative dans le secteur et qui soit mobile sur une zone export qui représente l'Europe, la Scandinavie, et qui est à définir un petit peu en fonction du profil du candidat.
Vous avez fait des études, alors on lance l'appel, vous avez un site j'imagine?
Nous avons
pour,
un site.
Pour l'auditeur, voilà, qui va être certainement intéressé, ils vont être nombreux.
Nous avons un site, jmcaz.com, donc JM comme les initiales de mon prénom, Jean-Michel, caz.com. Et par le biais du formulaire de contact, on peut tout à fait prendre contact avec nous et postuler à ce poste.
Bon, je vous rappelle quand même que BFM Business Radio, comme télé, mais BFM Business Radio, est une radio très écoutée dans votre région, dans le Bordelais. Oui. J'en profite pour les saluer, nos amis auditeurs de la région du Sud-Ouest, et ils nous écoutent sur 107.3. Vous restez avec nous?
Oui.
On est ravis de vous avoir comme invité témoin. Vous êtes né en quelle année?
74. C'était un très mauvais millésime, mais...
C'était la question que je voulais vous poser.
Je suis sorti quand même.
On est ravis de vous avoir.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors, on va parler de Génération Accenture maintenant, tout de suite même. Génération Accenture, c'est cette belle opération. Je vous dis, aujourd'hui, c'est sous l'égide le club MediaRH.com et sous l'égide flamboyante de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui est flamboyante. Et nous sommes ravis, je le dis aujourd'hui avec force, nous sommes ravis dans cette émission sur BFM Business de parler des choses qui marchent et ne pas de s'apesantir sur ce qui ne va pas. Ce qui marche, et de le rappeler, nous le faisons chaque samedi, il y a des entreprises qui recrutent. Vous venez de l'entendre, il y a des opportunités, il y a des offres d'emploi, elles existent, le chômage existe, le problème du chômage existe, mais il ne doit pas non plus gommer l'idée qu'il y a des postes à prendre. C'est le cas par exemple chez Accenture, et en reprise de conseil, représenté aujourd'hui par vous, Vincent Mitou, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être avec nous. Vous êtes senior manager, diplômé de l'école, ex-diplômé de l'école normale supérieure, et vous avez fait une thèse, en fait, à l'école...
C'était en fait à l'université Paris 12, devenue depuis Paris-Est.
Paris-Est, voilà. Et ça va nous faire un lien avec l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, pour l'opération Génération Accenture. Vous êtes d'accord? Vous recrutez?
Alors on recrute entre 800 et 1000 personnes en 2013. En 2012, en France, nous avons recruté plus de 1000 personnes.
C'est énorme.
Donc effectivement, dans les métiers du conseil, dans les métiers de la technologie, nous recrutons activement, nous cherchons des jeunes et des moins jeunes, créatifs, motivés, passionnés. C'est un métier de passion avant tout, le conseil et la technologie, et très innovant.
Vous avez entendu Jean-Charles Caz, qui est toujours bien sûr dans notre studio, c'est l'invité témoin, vous avez entendu son parcours. C'est un profil qui vous aurait intéressé. Bon, lui, il est casé. Hein.
Nous lui ouvrons les bras.
Il n'y a pas de jeu de mots.
Non, nous lui ouvrons les bras. C'est typiquement ce profil international, curieux, n'ayant pas peur des challenges, n'ayant pas peur d'aller au-delà de sa zone de confort. Clairement, c'est le candidat idéal.
Voilà, mais il est pris.
Allez,
on en reparle dans un instant. Merci d'être avec nous, en tout cas, sur BFM Business. Alors ça va de quoi à quoi? Disons les métiers que vous avez, les profils que vous recherchez, mon cher.
Alors effectivement des profils dans les métiers du conseil, donc effectivement des jeunes issus des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités, puisque nous recrutons de plus en plus en université. C'est 18% des jeunes que nous recrutons, les jeunes universitaires, des métiers de la technologie, informatique, dans les technologies classiques, Java, Oracle. Également SAP, qui est un peu notre flagship chez Accenture.
Et des gens à qui des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, des expérimentés ou pas, ou des jeunes diplômés qui vont être formés chez vous, chez Accenture, et qui pourront être projetés dans le monde.
Exactement.
Parce que Jean-Charles Caz, vous avez dû croiser dans votre vie des gens qui sont chez Accenture aujourd'hui.
Bien sûr, oui. À l'époque, c'était pas, ça s'appelait pas tout à fait Accenture. Je crois que c'était Arthur Andersen.
Arthur Andersen. Ah,
je remonte un peu, je date là déjà un peu de mon époque.
Attends, il est jeune. Hein, il se souvient d'Arthur.
Mais c'est vrai que c'est notre héritage, Arthur Andersen, effectivement, devenu depuis Accenture. Donc effectivement, des jeunes qui auront la possibilité de travailler sur des projets innovants et effectivement avec une présence globale, plus de 260 000 salariés dans le monde, on a vocation à être effectivement présent à l'international et à déployer nos ressources, nos talents.
Est-ce que dans les atouts que vous présentez, vous, Accenture, à vos candidats, vous faites rêver en disant que demain, en entrant en France chez Accenture, on peut avoir une carrière, vous pouvez proposer des carrières internationales?
Alors, c'est pas un rêve.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Enfin, typiquement, moi qui vous parle, en ce moment, il y a un projet en Espagne, un projet en Allemagne, un projet en France. Donc, effectivement, l'aspect international, alors, c'est pas le Brésil, c'est peut-être effectivement un peu moins glamour, mais on a d'autres projets, effectivement, dans les pays émergents, qui sont des gros, nos gros clients en ce moment. La Chine, le Brésil, effectivement, l'Afrique du Sud de plus en plus.
Jean-Charles Caz.
Oui, vous devez proposer à des jeunes des VIE, ces formations qui, comme moi, m'ont permis...
Les VIE.
VIE, qui sont des formations qui... Enfin, des programmes qui permettent aux entreprises d'embaucher à l'étranger et de commencer leur parcours dans une entreprise française et avec un format qui est tout à fait adapté aux jeunes diplômés.
C'est effectivement quelque chose qu'on propose.
Vincent, je rappelle votre nom, Vincent Mitou, senior manager d'Accenture, qui échange avec Jean-Charles Caz. Oui, allez-y.
Voilà, donc effectivement, Vincent. Les VIE, c'est quelque chose que l'on propose. On propose aussi beaucoup de stages. On s'est effectivement tourné il y a quelques années vers l'apprentissage, qui est une formule qui fait de plus en plus ses preuves. Là aussi, pour des jeunes issus d'école ou issus d'université, c'est quelque chose dont effectivement on est très satisfait. Donc là aussi, on essaye d'être innovant, hein, d'appliquer, je dirais, les méthodes qu'on recommande à nos clients, à notre propre fonctionnement.
Alors voilà, on vient de, comment dire, notre jargon, c'est presque du teasing. On vient donner la parole au représentant d'Accenture dans le cadre, le senior manager, qui un ancien de l'université, dans le cadre de cette opération Génération Accenture. On va y revenir dans quelques instants. On fait juste un break pour donner la parole à notre consoeur Sandrine Chico de Zero1Net, qui est l'experte RH, bien sûr, dans tout ce qui est le secteur informatique.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors ma chère Sandrine, comme chaque samedi, merci encore d'être avec nous, vous venez nous rendre compte, en tout cas c'est ça, le journaliste il est curieux et il vient rendre compte, merci de le faire. Vous avez envie de revenir cette semaine sur une étude de l'Observatoire SIRH qui porte sur l'intégration des nouveaux embauchés, donc ça tombe bien, c'est ce dont on est en train de parler finalement. Alors, que dit-elle? D'abord, un rappel sur ce qu'est l'Observatoire SIRH.
Alors, SIRH, c'est un observatoire qui rassemble des professionnels qui travaillent dans les systèmes d'information dédiés aux ressources humaines. C'est tout l'informatique RH,
d'accord,
pour faire simple.
D'accord. Et là, il y a eu donc cette étude.
Voilà, ils viennent de.
Sur les nouveaux embauchés.
Voilà, ils viennent de sortir une étude. Alors, c'est une
les
vraie
jeunes.
Question, l'accueil des nouveaux embauchés. Et vous savez pourquoi, Alexandre? Peut-être que vous avez des vieux souvenirs, d'avoir été mal accueilli. Non, mais même pas si vieux, mais.
Voilà, alors, mais vous avez raison, j'assume.
En tout cas, moi, je l'ai vécu d'être très mal accueilli dans une entreprise. Et ça laisse une image assez désastreuse de l'employeur. Ça en dit long, en fait, sur l'organisation qui est mauvaise,
ses raison.
Processus. Qui sont pas efficaces et surtout ça en dit long sur sa façon de considérer les collaborateurs de finalement, voilà, donc il faut soigner son image.
Oui, soigner l'accueil des nouvelles recrues dans une entreprise, et c'est une vraie question, quoi. Comment faut-il s'y prendre? Et un salarié mal accueilli, dites-vous, se fait d'emblée quoi, alors?
Voilà, une sale image de son employeur. Hein.
Alors, Sandrine Chico, du coup, quand même, certaines entreprises s'en préoccupent, et c'est là où vous avez enquêté, et quand elles vont jusqu'à informatiser le processus de gestion des nouveaux embauchés.
Voilà.
Quel est l'objectif?
En fait, donc, elles se dotent pour certaines d'un outil informatique, souvent d'un portail ou d'un intranet, pour gérer donc le processus d'accueil des nouveaux embauchés. Alors, quel est leur objectif? C'est d'abord, premièrement, de rendre les nouveaux embaucher le plus vite possible opérationnel.
C'est intéressé, quoi.
C'est toujours intéressé. C'est le monde de l'entreprise, Alexandre.
C'est normal.
Effectivement.
Bah,
c'est, on est là pour ça. En même temps, tout le monde est gagnant. Hein. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième objectif, c'est de favoriser le sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est vrai que mieux on est accueilli et plus on a tout de suite, on se sent appartenir à une grande famille, on va dire. Et puis, troisièmement, c'est améliorer l'efficacité de l'intégration, sécuriser l'intégration. Et le principe, donc, c'est de donner aux nouveaux embauchés accès à un certain nombre d'informations de base. Donc, ça peut concerner plein de choses. Hein. Ça peut renvoyer aux vieux livrets d'accueil qui existaient autrefois, toutes ces informations-là, et aussi, par exemple, à des témoignages de salariés de l'entreprise.
Oui, alors on voit bien l'accueil, on va faire réagir dans le studio après tout le monde, mais quel est, côté entreprise, l'intérêt d'informatiser, c'est bien de cela qu'on parle, informatiser ce process qu'on dit.
Écoutez, j'imagine que des groupes comme Accenture, ils voient tout de suite l'intérêt. Quand on est un très très grand groupe, c'est vrai qu'informatiser un certain nombre, ce processus-là, c'est déjà se débarrasser quelque part, s'alléger de tout ce qui est gestion administrative un petit peu lourde, liée à l'embauche, tout ce qui est
et ça passe par quoi,
l'attribution d'un bureau, c'est un logiciel et c'est accessible via l'internet ou l'intranet.
Oui.
Et on peut gérer, par exemple, l'arrivée du salarié, donc anticiper l'arrivée du salarié, gérer l'attribution d'un bureau, d'un téléphone ou d'un login, par exemple.
En revanche, encore assez peu d'entreprises sont équipées. D'après ce que j'ai vu dans l'étude.
L'enquête révèle que seulement 47% des entreprises ont informatisé ce processus. C'est vrai que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, ça dépend des moyens financiers. Alors je dirais une chose, c'est que celles qui ont les moyens ont quand même intérêt à le faire, notamment parce qu'aujourd'hui les jeunes sont quand même très sensibilisés aux nouvelles technologies et qu'être bien accueilli avec un bel outil informatique, ça donne quand même une bonne image dès le départ.
C'est quoi, c'est de type portail, c'est ça, ou intranet?
Voilà, exactement. Et donc, pour les entreprises qui n'ont pas les moyens d'informatiser ce processus, eh bien je vais pas leur conseiller parce que j'ai pas de conseils à donner.
Mais en tout cas,
je trouve que
un tuyau.
Faire le tour des collègues avec la personne, introduire. Alors c'est
des gestes simples,
complètement basiques, des gestes simples qu'on oublie. Mais alors là, je l'ai vu. On oublie régulièrement et c'est simple. Et par exemple aussi le premier jour, inviter le nouvel embauché à déjeuner et pas le laisser tout seul.
C'est lui qui paye.
Très simple.
C'est l'embauché qui paye. Attendez, c'est normal. C'est lui qui paye. Il a gagné un boulot.
Chacun sa conception, Alexandre. En tout cas, c'est des choses simples qu'il est bon de rappeler, je pense.
Non, vous avez raison. Alors, on en profite pour faire un tour de table, bien sûr, sur cette idée, l'intérêt d'utiliser un logiciel. Bon, on a tous connu l'entreprise, c'est en fonction de la taille, vous avez raison, où le directeur ou le patron vient présenter, effectivement, le tout jeune, la nouvelle recrue qui vient d'arriver. Alors, qui veut réagir? Évidemment, il a été interpellé, c'est notre ami Vincent Mitou d'Accenture, senior manager. Ben là, vous y êtes passé, vous qui êtes senior manager aujourd'hui.
J'y suis passé, effectivement.
À la moulinette. À l'arrivée.
Je ne peux que souscrire à ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des outils collaboratifs. Alors, effectivement, quand on dit outils, c'est pour outiller les managers, c'est pour outiller les fonctions RH, c'est pour outiller les services généraux, effectivement, les bureaux, les ordinateurs, les téléphones portables qu'il faut commander. C'est pour aussi créer, effectivement, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de communauté au niveau des nouveaux entrants. Mais ce n'est qu'un outil. Et je dirais, le plus important pour un outil, c'est celui qui le tient. Le plus important de l'accueil d'un nouvel entrant, c'est la relation, dirais, physique, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, depuis des temps immémoriaux, depuis l'époque Andersen, un système de parrainage.
Des nôtres.
Exactement, un système de parrainage, le tour des équipes, les déjeuners d'équipe régulièrement, des événements hors boulot régulièrement, pour justement créer cette communauté, créer ces liens.
Alors, Vincent Mitou, après Vincent Mitou, bien sûr, l'invité témoin. On va terminer par où, parce que les infos arrivent dans la famille Case, donnez-moi le fils. Et le fils, quand il y a l'accueil d'un nouveau collaborateur aujourd'hui dans une entreprise qui parle de vin et de produits nobles, du côté de Bordeaux et de Pauillac, qu'est-ce qui se passe?
Alors nous, je partage tout à fait l'avis de Vincent qui dit qu'il est très important de bien accueillir ses collaborateurs et d'avoir un contact personnel. Nous, on est une entreprise familiale, donc on a vocation quand même à être très proche de nos collaborateurs. Et donc, on essaye d'abord de les former à tous nos produits. Donc on est dans le monde du vin, donc ça passe par un apprentissage. On passe un peu par... on est mis en contact avec les techniciens dans l'entreprise, avec nos œnologues. On essaye de circuler un peu, de faire circuler l'information, d'aller voir un peu tout le monde. On est une entreprise à taille humaine.
Vous l'accompagnez, quoi, la personne qui arrive, vous l'accompagnez à tous les étapes.
On l'accompagne, bien sûr. Mais je crois que c'est très important, effectivement, parce que les premières semaines et l'arrivée dans l'entreprise, les premières semaines et les premiers mois sont fondamentaux pour bien intégrer les collaborateurs, pour qu'ils s'y sentent bien et pour poser de bonnes bases.
Merci à vous, Jean-Charles. On clôture cette partie. Dans quelques minutes après les infos, on va revenir sur Génération Accenture. Merci Sandrine Chicot.
Merci.
Merci à samedi prochain. On va revenir cette fois sur Génération Accenture. Et n'oubliez pas, les surdoués, restez à l'écoute. C'est normal, vous écoutez BFM Business si vous êtes surdoué. Et c'est normal, vous écoutez le Club Média RH. Vous en saurez plus dans quelques minutes après les infos. Le Club Média RH.com aujourd'hui, en ce samedi 9 février, est complètement ouvert et orienté avec Fabien Lerobot, notre réalisateur, vers tout ce qui concerne cette nouvelle génération qui arrive aux manettes, comme on dit. Et nous sommes ravis donc de recevoir Jean-Charles Caz, rebonjour, qui est aujourd'hui, qui a pris la relève de son papa, Jean-Michel Caz, pour diriger l'ensemble des vignobles familiaux de Pauillac, Lingebage, les hommes de Pèze. On dit Pèze ou Pé? Moi j'ai toujours
dit
les
Pèze. On dit Pèze, on préfère prononcer toutes les lettres.
Ah oui, parce que moi j'ai toujours, il y a la bagarre, homme de paix, hors de paix.
Oui, mais c'est très vite réglé, quand on arrive à Saint-Estève, c'est pèse.
et d'autres grands vins, mais encore une fois, on a une superbe rubrique sur BFM Business, Invino, on ne va pas y revenir, on n'est pas des spécialistes, ni on n'est pas là pour faire de la critique de vin, mais c'est pour parler de cette nouvelle génération qui arrive un peu partout en France, aux manettes dans les entreprises familiales. Vous restez avec nous. Vous savez que dans quelques minutes, on va recevoir Monique de Kermadec, qui est psychologue et psychanalyste, qui a écrit un livre formidable sur les surdoués, le surdoué dans l'entreprise, comment s'insérer lorsqu'on sort du lot, l'adulte surdoué, apprendre à faire simple, ça c'est le bouquin, apprendre à faire simple quand on est compliqué, et c'est paru chez Albin Michel, c'est paru en 2011, mais c'est tout un livre fait. Bonjour Madame Kermadec.
Bonjour Alexandre.
Et alors c'est toujours d'actualité, on va...
Tout à fait, je reçois de nombreuses lettres au quotidien, autant de personnes travaillant en entreprise que de particuliers.
Alors vous avez un parcours, vous avez le parcours d'une experte, je dis au passage, rappeler le reste de l'émission. On va revenir dans quelques minutes sur Génération Accenture. Mais non, mais j'en profite pour faire votre portrait, pour savoir qui est là. Vous avez un parcours d'une experte, votre bac en poche, Monique de Kermadec. Vous êtes partie aux États-Unis et vous y êtes restée 13 ans.
Oui, tout à fait. J'ai découvert l'université américaine en premier. J'ai beaucoup aimé ma vie aux États-Unis. J'ai commencé mes études, j'ai commencé à y travailler. Je suis revenue en France pour des raisons personnelles, mais je garde un lien étroit avec les États-Unis où je vais régulièrement.
Vous y avez obtenu un doctorat de philosophie et littérature comparée.
Oui.
Et vous y avez enseigné.
Tout à fait.
C'est ça. De retour en France, vous avez complété vos études avec un DESS et un DEA de psychologie clinique.
Mm-hmm.
Vous êtes formé en parallèle pour devenir psychanalyste. Vous avez travaillé en tant que psychologue à l'assistance publique à Paris, en hôpital spécialisé, en CMPP. Et vous êtes, dit-on aujourd'hui, spécialiste, un des grands spécialistes de la précocité et de la réussite, chez l'enfant comme chez l'adulte. Et vous avez reçu, me dit-on à ce jour, plus de 8000 familles en bilan et en entretien. Bref, vous avez une expérience incomparable dans le domaine, d'où on comprend que vous avez eu l'audace, s'il en fallait, de publier d'abord un premier livre dont le titre est « Pour que mon enfant réussisse », c'était déjà aux éditions Albin Michel, et puis donc ce livre qui nous a interpellés déjà, et je suis content qu'on en reparle, « L'adulte surdoué ». Mais je fais un peu de suspense, car on va revenir vers vous dans quelques instants, je suis ravi que vous soyez avec nous. Vous avez remarqué dans ce studio, il n'y a que des surdoués, vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors, Génération Accenture, si vous nous êtes fidèles, vous savez que chaque année, nous sommes fiers et heureux de mener une très belle opération en partenariat avec Accenture, donc qui consiste à aller dans des grandes écoles en France. Je ne vais pas toutes les citer, Polytechnique, HEC, l'ESSEC, etc. etc. Également, et depuis peu dans les universités, à la découverte donc de nouveaux talents, des jeunes qui seront des numéro un de demain et qui d'ores et déjà, qui ont un quelque chose, comme on dit, de communicant et qui peuvent apporter et nous présenter, nous faire espérer qu'ils auront des choses à dire et à créer. Ça a été le cas donc cette semaine dans une école intéressante qui, elle, qui n'est pas une école, et qui est, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant pour nous, parce que c'est la première fois que j'avais l'occasion d'y mettre les pieds, c'est à Créteil, donc c'est l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises. D'abord, on va parler de cet établissement avec vous, Philippe Bizeuil. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Vous êtes vice-président en charge des partenariats économiques des relations entreprises pour l'Université de Créteil.
Exactement. Dont l'IAE est une des composantes.
C'est en Île-de-France, bien sûr, pour ceux, parce qu'on est, on est une radio nationale, pour ceux qui ne savent pas forcément.
Mais on revendique d'être une université en banlieue. Parce que nous avons effectivement une vraie mission d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire et en particulier sur le nôtre qui est l'Est francilien.
Alors ça veut dire quoi?
On n'est pas une université de banlieue, on est une université en banlieue, c'est-à-dire qu'on a, on emmène l'enseignement supérieur et la recherche au plus près des jeunes et de leurs familles, c'est-à-dire là en l'occurrence dans le Val-de-Marne et nous en l'occurrence même jusque dans le sud Seine-et-Marne.
Alors l'IAE,
et l'IAE est une des composantes de l'université, plus exactement c'est la faculté de gestion. Et qui a le label IAE, comme certaines en France, label IAE qui est décerné par un comité de sages de professeurs d'université. Moi, j'enseigne moi-même, qui effectivement, sur un certain nombre de principes, de qualité, de contenu, donne ce label IAE qui se positionne comme ce que vous disiez, une école au sein de l'université. C'est les avantages de l'université et les avantages de l'école.
Alors l'IAE reçoit chaque année, je vais vous donner une série de nous donner une série de chiffres pour qu'on soit bien calé. Simple, l'IAE c'est chaque année combien d'étudiants? D'abord, comment entre-t-on à l'IAE?
Alors on rentre à l'IAE, en tous les cas sur celui de Gustave Eiffel, mais comme tous, on rentre en troisième année d'université, c'est-à-dire en licence, troisième année de licence. Et les IAE ont cette particularité d'être des parcours sélectifs, c'est-à-dire qu'on rentre à l'IAE sur une sorte de concours d'examen à la fin de sa deuxième année d'université. L'IAE Gustave Eiffel, c'est un peu moins de 1000 étudiants.
Qui rentrent chaque année?
Non, en tout. À la fois sur la troisième année de licence qui s'appelle économie-gestion, et sur les master 1 et sur les master 2.
Il faut être matheux pour venir chez vous.
Pas plus que ça. Enfin, il faut savoir effectivement maîtriser un certain nombre d'éléments mathématiques, mais
puisque vous formez à l'administration des entreprises, j'imagine.
Oui, il faut être matheux, mais on a besoin d'être, enfin, comme dans tous les métiers, je veux dire, à un moment donné, on a besoin de manipuler les données chiffrées. À l'IAE, vous avez des masters qui sont effectivement des masters d'expertise comptable. Donc là, on peut imaginer que les chiffres soient importants. Et à l'opposé, on peut avoir un master de responsabilité sociale en entreprise. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin de compter, mais la notion de mathématiques est peut-être moins prégnante.
En tout cas, avec Florence Réal, qui était avec nous pour Accenture dans l'opération, on a eu un accueil fabuleux chez vous.
Merci.
Je tiens à vous remercier. Et avec BFM Business, on aurait pu distribuer des autocollants, comme on dit. Mais c'était vraiment, ils sont vraiment formidables, vos jeunes.
Oui,
on a une représentante ici, on va en parler. Mais
ils sont formidables. Et dans le même temps, en fait, ce qui se passe à l'IAE, c'est ce qu'on fait avec Florence Réal chez Accenture. C'est aussi rapprocher l'entreprise et l'université. Il y a des talents insoupçonnés probablement dans les universités, à l'IAE, mais dans les autres composantes. C'est ma mission, moi. Mon job qui est effectivement de faire ce rapprochement.
Alors Philippe Bizeuil, une dernière question, enfin entre guillemets, et vous aurez l'occasion de vous exprimer sur d'autres sujets, mais Philippe Bizeuil, combien d'étudiants sortent cette fois à la fin de leur cursus? Vous nous avez dit on rentre en troisième année après licence. Ça dure combien de temps les études à l'IAE?
A priori, on y vient pour 3 ans, même s'il y a encore une sélection entre le Master 1 et le Master 2. Mais bon, on y reste 3 ans.
On a une grande barbe blanche quand on s'en va.
Non, 3 ans. Enfin, c'est un Bac+5 en somme.
Bac+5, voilà. Allez, on Bac+5. Question, est-ce qu'on est a priori bankable dans l'entreprise? Est-ce que les entreprises viennent chercher
les
étudiants?
Sur nos études d'insertion professionnelle, on a des taux d'insertion qui sont supérieur à 90%.
Bravo.
Oui.
Et on les retrouve où on les appelle comment? Les IAUistes? Les IAUE, je sais pas quoi.
On les des diplômés de l'IAE Gustave Eiffel.
Ouais.
Alors nous, une particularité, c'est qu'à Gustave Eiffel, et c'est une particularité de l'UPEC aussi en général, c'est que la quasi-totalité des masters se font en apprentissage.
Alors, on a eu un accueil fabuleux, on a rencontré 5-6 jeunes étudiants, tous talentueux, je dois le dire, ça a été bluffant, et on a sélectionné un dossier, vous allez découvrir, donc la lauréate 2013 pour votre école, qui va participer à la finale nationale, c'est une surdouée elle aussi, et c'est un cas pour vous Monique de Kermadec, vous allez voir, elle fait partie peut-être des surdoués, on est ravis de vous présenter, souvenez-vous de son nom, Lucille Decatre, pour son projet qui a un rapport avec l'express, avec la beauté, avec le bus. Allez, on y va.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Bonjour Lucille Decatre.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être avec nous. Ça va, vous n'avez pas trop le trac. Vous êtes
tout,
une vraie communicante. Regardez, Jean-Charles Caz, il en a déjà roulé sa bosse, hein, mais il est content, on est tous à votre écoute. Alors vous êtes en quelle année de l'IAE?
Moi, je suis en Master 2, donc en cinquième année.
Ça y est, vous êtes prête à sortir, à vous envoler.
C'est bientôt,
à prendre votre projet en main. Ce qui est le cas, puisque vous nous avez présenté donc ce projet Express Beauty Bus. Ben, même punition, vous avez une minute, comme on dit chez nous, pour nous convaincre, pour nous raconter l'histoire. C'est quoi d'abord ce projet?
Alors, l'Express Beauty Bus, c'est avant tout un bus qui est pratique. Donc, c'est un bus qui se déplacerait au pied des entreprises pour proposer aux salariés des prestations de beauté globale. Et ça de manière accessible.
Un salon de beauté ambulant, on peut dire ça?
On peut le dire comme ça. C'est vraiment un bus qui proposerait des prestations de beauté, donc qui vont autour de la manucure, de la coiffure, du maquillage. Et ça pour moins de 20 euros et pour 20 minutes maximum. Donc ça s'adresse aux salariés principalement, puisqu'on se déplace directement sur leur lieu de travail.
Oui.
Et donc que ça soit avant d'aller au travail, lors de leur pause déjeuner ou à la sortie du bureau, notre but c'est vraiment de simplifier la vie des salariés en nous rendant là où ils en ont besoin.
Alors prenons l'exemple d'Accenture, avec notre ami Vincent Mitou, vous allez chez Accenture, devant la porte d'Accenture, et drôlin avec une cloche, etc. Et puis tout le monde descend, tout le monde quitte le boulot, c'est quoi? C'est pour venir dans votre bus? Pour se faire maquiller, coiffer, non, c'est quoi? Maquillage, manucure?
Manucure, coiffure, maquillage et soins du visage.
Mais dites-moi, c'est pas un bus qu'il faut, c'est...
Non, c'est puisque c'est vraiment des petites
prestations. C'est 250 bus.
Non, un seul suffit. C'est vraiment, oui, pour simplifier la vie des salariés au pied de leur lieu de travail. Voilà.
Alors, le business plan de votre affaire, parce que vous dites on est d'accord que c'est un projet que vous allez mettre en place, qui n'est pas encore opérationnel, c'est ça?
Non, pour l'instant, on est vraiment au stade de l'idée, les recherches, on est en études pour l'instant, vraiment, on est sur l'idée.
Alors, le business plan, c'est quoi? Je ne vous demande pas comment vous allez votre vie, ce n'est pas mon problème, mais c'est quoi l'idée? Parce qu'il en faut du monde, il en faut des bus.
L'idée, alors pour l'instant, on est vraiment sur un seul bus, puisque c'est le début, c'est comme ça qu'on va monter le business, c'est vraiment de créer un partenariat avec les comités d'entreprise, avec les directions d'entreprise.
Donc c'est eux qui paieront? Pour les collaborateurs?
Comme les services qui sont proposés par les comités d'entreprise.
Ah,
il y aura une partie sûrement de financée par les comités d'entreprise, mais l'autre partie par les salariés. Et vraiment, c'est un avantage pour le salarié, évidemment, mais aussi pour les entreprises, puisque c'est un avantage pour leurs salariés. C'est des salariés qui sont plus détendus, moins stressés. C'est quand même un enjeu qui est important aujourd'hui.
Alors, ça intéresse. Je vois des sourires, des envies de s'exprimer. Jean-Charles Caz, bien sûr, qui rêve de trouver un bus dans les vignes de Brouillard.
Non, mais voilà, je pense que ça s'applique.
Pour ces vignerons qui ont besoin
une population
de
un peu plus urbaine.
Les mains. Allez-y, Jean-Charles.
Je pense que c'est effectivement adapté à une clientèle plus féminine et plus urbaine que...
Bien sûr.
Voilà.
Vous confirmez?
Alors,
non,
féminine, pas spécialement, On peut partir du constat que pour les hommes, ça peut être un inconvénient d'aller chez le coiffeur, et notamment ça leur prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'entre passer une demi-heure le week-end aller-retour pour aller chez son coiffeur pour un homme et y passer seulement 20 minutes à la sortie de son travail, ça représente un avantage pour les hommes également.
J'avais oublié que je me faisais couper les cheveux.
Monique de Kermadec, un homme mot?
Non, l'idée m'amuse et m'intéresse. Je suis curieuse de voir comment elle va se développer.
Et pour vous, donc vous, c'est normal, c'est votre lauréate, bien sûr, Philippe Bizeuil, vous qui êtes le vice-président.
J'espère qu'elle viendra s'installer au pied de l'université aussi. Voilà. Temps, oui.
Alors vous en êtes où? Vous dites que vous, où en êtes-vous dans ce projet? Dernière question.
Vraiment,
ça avance bien?
ça avance, recherche surtout des entreprises cibles, des entreprises partenaires, donc des pôles d'entreprises où nous déplacer, puisqu'on ne va pas se déplacer uniquement pour une seule entreprise, mais pour un groupement d'entreprises. Donc voilà, pour l'instant, on cherche des entreprises cibles et on étudie le marché.
Voilà. Vous pouvez venir au pied de l'immeuble de BFM.
Par exemple.
Parce qu'il y a BFM Business, il y a BFM TV, il y a RMC.
Par exemple.
Il y a du monde, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, et beaucoup de jeunes et beaucoup. Voilà. Bon, bref. Donc c'est valable un peu partout.
Voilà.
On vous souhaite bonne chance.
Oui, merci.
On est avec vous et on vous attend pour la finale. Peut-être allez-vous gagner la finale de Génération Accenture.
On l'espère.
Félicitations et bon courage en tout cas dans ce projet. Lucille de 4, n'oubliez pas son nom, et son projet Express Beauty Bus. Dans un instant, on retrouve Monique de Kermadec. Je vous l'ai promis, voici, et on a un peu de temps pour en parler, c'est pas un sujet fréquent en radio, en télévision et même dans la presse en général, le surdoué dans l'entreprise. Comment s'insérer lorsqu'on sort du lot, hyper enthousiaste, sensible, clairvoyant, perfectionniste, créatif et énergique, vous vous reconnaissez j'en suis sûr, les adultes surdoués, vous l'êtes peut-être, possèdent de nombreux atouts pour réussir en entreprise, à condition toutefois, dit-on, qu'on leur laisse la place de s'exprimer tels qu'ils sont. C'est bien ça, Monique
de
Kermadec.
Tout à fait. L'adulte surdoué a beaucoup à apporter à l'entreprise, mais il est important que celui-ci, je dirais, connaisse son fonctionnement et que l'entreprise puisse le comprendre.
Alors, je précise à nouveau que vous êtes l'auteur de « L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué ». C'est paru chez Albin Michel. Il est retiré en permanence, j'imagine.
Oui, il est à sa 8e réimpression,
voilà.
Là, maintenant.
Vous êtes une vraie référence à la matière. Alors, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas. La douance, D-O-U-A-N-C-E, ça veut dire quoi?
Oui.
C'est ça, être surdoué?
Oui, c'est un mot qui est employé en France, mais qui effectivement n'est même pas dans le dictionnaire. Je pense que c'est un mot qui fait allusion, bien sûr, à ses caractéristiques spécifiques à l'adulte, ses traits de personnalité, son mode de fonctionnement. Les Anglais ont le mot gift, qui fait plus allusion au don, mais que nous réservons aux artistes.
Oui, donc en fait, la douance, c'est le mot de médecin, peut-être qu'ils l'ont inventé, on ne sait pas très bien.
Je ne sais pas qui l'a utilisé en premier, non.
Mais on en parle pour dire que c'est un adulte surdoué. Alors d'abord, il y a 5 définitions que vous donnez, qu'on va rappeler rapidement.
Oui.
Être surdoué, c'est d'abord quoi? Il y a 5 points, selon vous.
Mais être surdoué, c'est d'abord être quelqu'un qui est particulièrement vif dans sa façon de penser, qui peut avoir des idées tout à fait originales, être créatif. C'est quelqu'un qui est capable de se passionner, et qui investit à fond ce qu'il fait.
Il a envie de faire bouger les choses.
Tout à fait. Il a envie de faire bouger les choses et il a un appétit, je dirais, de nouveauté. Mmh. Ceci peut être tout à fait positif pour l'entreprise, mais peut aussi un petit peu bousculer l'entreprise.
Alors ça veut dire qu'il est, dites-vous, irrémédiablement différent, le surdoué?
Il est différent, il est perçu comme différent et lui se sent différent.
Et c'est pas un handicap?
Non, ça ne devrait être au contraire être perçu comme quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui a quelque chose de nouveau à apporter dans sa collaboration avec l'entreprise.
Alors, vous dites également que les autres ne comprennent pas toujours ce qu'est la fameuse douance, ce qu'est un surdoué. Et c'est là où ça pose problème.
C'est-à-dire que le mot met un petit peu mal à l'aise, parce qu'on pense toujours à génie, on pense à quelqu'un qui se sent supérieur. Or, l'adulte surdoué ne se sent pas nécessairement supérieur, mais il peut avoir conscience d'une différence dans sa manière de regarder le monde, de le comprendre et de fonctionner.
Vous ajoutez que cultiver son potentiel est sensiblement favorisé par la rencontre d'un mentor, de bonnes relations, ça c'est pour le surdoué. Mmh. Et l'adulte surdoué, pour complètement s'actualiser, a besoin à un moment ou un autre d'être au clair sur ses valeurs fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense que lorsque, surtout pour l'adulte surdoué qui a besoin de sens dans ce qu'il fait et dans ce qu'il entreprend, la question des valeurs fondamentales se pose assez tôt dans sa vie.
Oui.
À quoi sert ce que je fais? De quelle manière puis-je contribuer de façon significative au monde dans lequel j'appartiens?
Alors Monique de Kermadec, on va adapter ça à l'entreprise, le surdoué dans l'entreprise, comment s'insérer, on va en parler. Juste encore un mot quand même, et j'aime bien cette précision, vous dites à la question « femmes et hommes surdoués, même combat, point d'interrogation », vous répondez « non, si un homme surdoué a du mal à trouver sa place dans la société ou dans l'entreprise, la femme surdouée cumule les difficultés ».
Oui, tout à fait. Je pense que un homme qui va de l'avant, un homme qui est très demandeur, un homme qui impose ses idées, va être perçu de façon positive. Et très souvent, quand c'est une femme qui agit de cette manière-là, on peut avoir le sentiment que celle-ci est plus agressive dans sa manière de fonctionner.
Tout cela est considéré comme étant des qualités. Enfin, ce qui peut être considéré comme des qualités chez l'homme, le côté intelligent, brillant, qui a envie de faire avancer les choses, est peut-être, dites-vous, ressenti comme une agression quand il s'agit des femmes, car elles s'éloignent trop des stéréotypes féminins.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui, oui.
Sur un plan professionnel, plutôt.
Sur un plan professionnel, je constate par exemple que beaucoup d'étudiantes, au moment de leur sortie d'une grande école ou d'université, attendent un monde dans lequel les opportunités seront exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Elles ne voient pas de différence, or l'entreprise n'est pas encore tout à fait prête à les aborder exactement de la même façon, même si certaines entreprises ont vraiment fait un énorme progrès là-dessus.
Alors, on reprend cette idée du surdoué dans l'entreprise, comment s'insérer. Vous dites, premier point, hyper enthousiaste, sensible, clairvoyant, perfectionniste, etc. Mmh. Les adultes surdoués possèdent de nombreux atouts pour réussir en entreprise, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Oui, parce que certains... à condition d'être bien conscient de son mode de fonctionnement, de ne pas attendre des autres exactement la même chose que ce que l'on peut faire en tant qu'adulte surdoué. On voit par exemple que certains ont le sentiment que leurs collègues sont de mauvaise foi ou ne veulent pas travailler avec intensité. Or, le rythme du surdoué est plus rapide et il doit pouvoir s'adapter à la fois au rythme de l'équipe tout en gardant, lui, sa façon de travailler. Donc, il y a une certaine adaptation qui est nécessaire.
Est-ce que justement ces atouts qui sont ceux d'un surdoué ne sont pas souvent reprochés par la hiérarchie ? Parce qu'ils agacent, ils déroutent.
Alors tout dépend de la hiérarchie.
Est-ce que ça peut pas faire peur un surdoué dans une entreprise ?
Ça peut faire peur, mais je pense que la hiérarchie peut aussi être très heureuse d'avoir un collaborateur qui a des solutions, des idées qui sont innovantes, quelqu'un qui est capable d'investir à fond ce qu'il fait.
Alors, je me tourne vers ceux qui sont dans le studio, bien sûr. Jean-Charles Caz, vous ne vous considérez pas comme un surdoué ?
Non, pas vraiment, non.
Bon,
non,
mais vous en connaissez des surdoués autour de vous ? Vous avez déjà croisé ?
C'est amusant, non, j'en ai pas.
Vous écoutez avec beaucoup d'attention, comme nous tous.
Non, parce que j'ai, à titre personnel, j'ai un neveu qui a été diagnostiqué, si je puis dire, comme précoce. Et on se pose effectivement beaucoup de questions sur son orientation, son éducation, son avenir. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse, bien sûr.
Alors, le problème, c'est que le surdoué en entreprise a une façon déroutante, dites-vous, Monique, on apprend des choses étonnantes avec votre livre et votre vision. Il a une façon déroutante d'aborder les problèmes qui peut agacer le groupe. Il se montre impatient, par exemple.
Oui, tout à fait. Hein, oui.
Il met la barre très haut pour lui-même et les autres. Oui. Et il s'ennuie rapidement.
Oui. Alors, justement, lorsqu'on parlait des jeunes et de leur arrivée dans le monde du travail, il y a de très fortes attentes, il y a une grande intensité. Et lorsqu'ils entrent dans l'entreprise et qu'ils comprennent qu'il va falloir attendre, qu'il y aura un temps, qu'ils doivent trouver leur place, on peut avoir à ce moment-là une désillusion de la part de ces jeunes. Et il est important que l'entreprise sache répondre, sache les encourager, leur permettre de voir une évolution possible.
Alors, réaction de Vincent Mitou. Et ensuite, on demandera, bien sûr, à Philippe Biseuil aussi de réagir. Vincent Mitou d'Accenture, senior manager.
C'est vrai que c'est
surdoué.
Non.
allez-y.
Non. Non, c'est vrai que c'est un double défi.
Non, surtout pas. Non, mais on a l'impression qu'on dit tous. Non, je veux pas être surdoué avec tout ce que je viens de dire. Là, ça fait peur.
Non, mais je pense pas répondre à la définition, tout simplement.
Allez-y, Vincent.
Non, c'est un double défi, effectivement. Les personnes surdouées en entreprise, c'est un défi pour l'entreprise.
Vous en avez connu ?
J'en ai managé au sein de mes équipes. Et je dirais, c'est un vrai défi de management et c'est un vrai défi d'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, le surdoué doit faire des efforts pour s'adapter à un monde peut-être pas aussi rapide que ce qu'il peut espérer. Mais c'est aussi un défi de management parce que quelque part, il faut nourrir la machine. Nourrir la machine en ouvrant des perspectives à la fois de carrière, avec des fast-tracks, avec des choses comme ça, puis aussi, peut-être, effectivement... Des fast-tracks, en fait, c'est les parcours rapides chez Accenture qui permettent, effectivement, aux gens de passer un peu les étapes si leur performance, je dirais, sont au rendez-vous. Et c'est vrai qu'il faut, effectivement, alimenter la machine, donner des projets innovants, peut-être donner des problèmes plus complexes à résoudre en moins de temps. Et...
Alors, Jean-Charles, vous vouliez intervenir aussi.
Oui, je crois que c'est un enjeu, enfin, d'après ce que je comprends, qui se pose déjà dès les premières classes. Hein, puisque moi je vois mon neveu, la question qui se pose aujourd'hui c'est pour accompagner son développement, c'est de savoir s'il faut qu'il saute une classe ou pas, parce que s'il ne saute pas de classe, il a tendance à s'ennuyer dans ce qu'il fait aujourd'hui et peut décrocher. Enfin, c'est une problématique qui se pose dès l'enfance et qui se reproduit après dans la vie de l'entreprise.
Et j'ai lu dans votre livre, pour être alors cette fois côté surdoué, parce que l'on parle de l'entreprise, et vous avez raison de parler de votre neveu, mon cher Jean-Charles, mais vous dites, Monique de Kermadec, encore une fois, vous êtes une experte. Pour ceux qui nous rejoignent, il faut lire son livre « L'adulte surdoué », Monique de Kermadec aux éditions Albin Michel. Vous dites « Pour être heureux dans une entreprise, le surdoué a besoin qu'on lui lance un défi permanent qui stimule son intelligence, sa soif de connaissances, en bref, ne pas être dans la routine. Mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de mettre quelqu'un, de faire en sorte qu'il ne soit pas dans la routine ?
L'idée n'est pas que l'entreprise soit là pour l'adulte surdoué, c'est que l'entreprise sache utiliser au mieux un adulte surdoué dans ses intérêts aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est quand les deux intérêts se rencontrent que là, on a vraiment une situation idéale.
Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, Vincent ?
Je souscris tout à fait à ce qui, voilà. ce qui vient d'être dit.
C'est la bonne rencontre.
Oui. Exactement. Le bon mix.
Et oui, réaction de Philippe Bizeuil.
Non, moi, je pense qu'effectivement, alors je ne suis pas non plus surdoué, j'ai essayé de compter sur les 5, mais il m'en manque, il m'en manque quelques-uns. Non, je pense que ce que vous dites en matière d'intégration d'une personne surdouée en entreprise et les questions de management que ça suppose reviennent un peu aux questions qu'on peut nous se poser dans le domaine de l'éducation, c'est comment est-ce qu'on intègre ces jeunes-là pour effectivement exploiter ou en tous les cas permettre le tout ce potentiel de se libérer avec des systèmes qui ne sont pas prévus pour. Hein.
Un vaste sujet, les surdoués, je rappelle le livre de Monique de Kermadec. Vous reviendrez,
oui,
Monique,
très volontiers.
D'autres occasions, voilà. Parce que vous avez une palette très très grande de compétences, en tout cas pour tout ce qui est la psychanalyse, la psychologie, et notamment dans l'entreprise. L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, chez Alba Michel. Vous avez des projets, chacun a des projets. Je me tourne vers notre invité témoin, juste quelques secondes, pour terminer avec vous, Jean-Charles Caz. Votre prochain projet, c'est de boire une bouteille de Bordeaux. On est d'accord. Avec modération. Il est comment le dernier cru?
Le 2012 est un très bon millésime.
Vous nous conseillez?
Oui, je conseille tout à fait le 2012, qui est un millésime classique à Bordeaux, qui a à la fois la maturité, l'élégance et la buvabilité des...
La buvabilité, c'est
la buvabilité. C'est des bons millésimes qu'on sait faire
avec,
à Bordeaux.
Avec modération.
Certainement.
Vous avez raison de continuer de prendre la relève pour défendre l'excellence, parce que c'est ça, l'excellence de la France, il n'y a pas d'autre mot, tout le monde nous envie, alors allons-y, on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts pour vous et votre famille, et vous tous, merci à vous tous d'avoir accepté de participer sur BFM Business au club Mediarage.com qui va fermer ses portes. On se retrouve samedi prochain, je vous souhaite un excellent week-end, à l'écoute bien sûr de BFM Business, sans modération, écoutez quand vous voulez, tout le temps, à samedi prochain.